when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Est-ce que c'est parce qu'il y a un côté où tu te dis, ok, ce verre que je vais payer peut-être 5 balles à cette personne, c'est de l'argent que je vais pas faire fructifier par ailleurs.
Ah oui, totalement, ouais. Complètement. Mais c'est pour la même raison aussi que hier, par exemple, avant de prendre le train, je me suis payé un sandwich poulet mayonnaise.
Mais wow. Qui est ouf.
Ouais, mais tu vois, justement, à chaque fois que je me paye un truc que je pouvais pas me payer il y a 15 ans, parce que j'étais étudiant, j'avais 400 balles par mois pour vivre. Je m'en délecte d'autant plus. Je me dis, ouais, je peux me le payer.
Exécuté par qui? Fabrice Florent.
Bonsoir, bonjour, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque mardi et chaque vendredi à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent tout simplement? Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités, de leur intime, parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, plutôt dans des podcasts de conversation, sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5€ par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode. Merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préférée, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcasts ou Spotify. Et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. Salut Marc!
Salut Fabrice.
Comment ça va?
Ouais, ça va bien.
Bienvenue dans Histoire d'argent. Marc, tu es le fondateur et aujourd'hui tu gères ce blog qui s'appelle Radin Malin.
Ouais.
Tu m'as envoyé un mail pour m'expliquer que tu voudrais venir passer dans le podcast. Et en fait, je suis heureux de t'avoir parce que j'ai l'impression un peu embrassé ton statut de radin finalement en créant carrément une marque que tu exploites en plus depuis super longtemps, non?
Ça fait 9 ans maintenant que j'ai le blog.
Ah ouais, donc et ce blog d'ailleurs, tu finis par réussir à gagner de l'argent grâce à ce blog et c'est limite c'est aujourd'hui ton activité principale, quoi.
Oui, c'est vrai, c'est une de mes sources de revenus parce que j'ai commencé le blog, j'avais rien du tout, hein. J'étais vraiment au RSA et compagnie, tu vois, je savais pas quoi faire de ma vie.
On va en parler.
Voilà quoi.
Tu savais pas quoi faire de ta vie à ce point?
Ouais, c'est vrai. Hein. Ouais. Ouais, je finissais mes études et je savais pas quoi faire avec mon diplôme de mon master de langue étrangère appliquée. Je savais pas quoi foutre avec ça.
Et en fait, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller créer un blog en rapport avec la radinerie?
Parce qu'en fait,
c'est un blog de bon plan. Ouais. Faut l'expliquer, c'est un blog de bon plan.
Mais... Ouais, alors c'est vrai que c'est bon plan parce que c'est ce qui parle le plus aux gens, donc voilà, c'est comme ça que je le définis. Mais en vrai, c'est intimement lié avec aussi d'autres sujets, genre des sujets de l'investissement. Comment t'investis la thune, en fait? Une fois que t'as économisé avec des coupons au supermarché, machin, en fait, l'argent, tu vas pas le dépenser tout de suite. La logique aussi, c'est de l'investir sur le long terme et en fait d'améliorer sa vie sur le long terme. Bien plus que juste les bons plans immédiats, même si c'est ça qui intéresse le plus les gens, bien sûr.
Et donc, depuis 9 ans, tu fais ça, c'est-à-dire que tu comment tu vas chercher des bons plans sur Internet. Ouais. Mais t'as appelé ça radin malin d'entrée?
Ouais, ah ouais, je m'en souviens. Bah, en fait, je me disais, tu sais quoi, j'ai toujours eu des bons plans, parce que, en fait, j'ai toujours été à la dèche, quoi, et j'ai toujours été à la recherche de moyens de faire des économies. Et, jusqu'à en être trop radin, parfois, malheureusement.
On va en parler.
Ouais, ouais.
Vous voyez pas la mémoire que regarde dans le vide.
Il y a des amis qui m'ont dit ouais, tu devrais faire un bouquin et tout. Du coup, je me suis renseigné, machin. Et puis moi, comme je suis plus technophile, je voulais faire une chaîne YouTube. Et finalement, je me suis dit, je vais faire un blog, c'est plus tranquille, plus posé. Voilà.
C'est plus facile.
Donc là, j'ai la chaîne YouTube depuis quand même un certain temps. Mais bon. Et je me suis dit, bon, je vais donner toutes mes astuces là. Mais c'est vrai que c'est un peu dans mon état d'esprit, tu vois, d'être un peu filou. Voilà.
T'as un état d'esprit d'escroc, un peu.
Ah, j'irai peut-être pas jusque là, parce que, enfin, tu vois, ça, je le tiens un peu de mon père, qui a ce côté-là, mais moi, je suis plus, logique que plus rationnel, quoi.
T'es un peu Dédé la débrouille, quoi. C'est un peu
plus ça, on va dire, Parce que j'aime pas non plus escroquer, quoi. Mais par contre, j'aime bien, tu vois, par exemple, tu sais, je parle pas mal de comment avoir Netflix pas cher avec des trucs, des comptes partagés, et des VPN et compagnie. Et ça, tu gruges Netflix, mais bon, personnellement, moi, j'en ai rien à foutre. Je pense même que c'est une bonne chose.
De gruger Netflix?
Ouais, honnêtement.
Ok. Ok.
Enfin, je veux dire, de gruger, tu sais, les grandes plateformes et qui te...
Il y a des gens qui sont... Donc, en gros, dans ta tête, c'est cool de gruger certains trucs, mais c'est moins cool de gruger d'autres, c'est ça?
C'est cool de... Bon, c'est pas cool de gruger les gens, c'est pas cool de voler. Là, le truc de Netflix et des autres plateformes, si tu les as via des comptes partagés et des VPN, tu vas payer une fraction du prix. Est-ce que tu voles vraiment à Netflix? Je sais pas, tu vois, c'est sujet à débat parce que c'est une zone grise quand même.
C'est-à-dire que si tous les gens payaient leur compte normalement, là Netflix vient d'augmenter ses tarifs, etc., etc., pour tout le monde pour le coup. Et moi je me dis juste, en fait, si tout le monde payait correctement alors peut-être que Netflix n'aurait pas augmenter ses prix. En tout cas, peut-être que Netflix, globalement, il se serait dit « Ok, c'est autant d'argent pour nous, on va quand même augmenter les tarifs, mais peut-être pas. » Tu vois.
J'entends l'argument,
l'aspect
mais
collectif,
je suis pas d'accord avec cet argument parce que en fait, trop souvent, enfin voilà, on vit dans un monde capitaliste machin, et les gars, c'est une entreprise, voilà, tant qu'ils voient qu'ils peuvent soutirer plus de thunes, ils soutirent plus de thunes. Donc en fait, qu'il y ait des gens qui grugent et des gens qui grugent pas, c'est pareil, ils vont l'augmenter quand même. Ils vont dire, ah oui, ça marche si on le met à 10 euros, et si tout le monde paye à 10 euros, pourquoi on ne mettrait pas à 11 euros? Parce que il y a des actionnaires derrière. Moi, j'investis en bourse aussi, je m'intéresse beaucoup à ça, je vois bien comment ça fonctionne. Tant qu'ils peuvent gratter plus de thunes, ils gratteront plus de thunes. Jusqu'à ce que les gens soient dégoûtés et qu'ils commencent à gruger, qu'ils commencent à revenir au torrent et compagnie. Quoi. Donc, c'est qui est en train d'arriver d'ailleurs.
Le téléchargement illégal, donc, les torrents.
Oui.
C'est intéressant parce que, donc si j'ai bien compris, mais on va en parler, tu as un parcours où tu as été au RSA, etc. etc. Enfin, ça a été compliqué pour toi financièrement. Ouais. Aujourd'hui, ça va mieux, ta situation financière.
Ah bah aujourd'hui, ouais, ça va largement mieux. Je suis pas rentier, mais parce que c'est mon objectif d'être rentier. Mais je suis à moitié rentier.
Ok.
Ouais, c'est un peu compliqué parce que c'est pas aussi simple que qu'on se l'imagine. Il y a des trucs, des sources de revenus qui sont à moitié passives. C'est-à-dire qu'il faut les entretenir un petit peu. Ou alors, sinon, je me suis créé un patrimoine. Je suis à peu près à 400 000, tu vois. Et alors que je suis parti de rien, j'avais pas d'héritage, j'en aurais jamais des héritages, ça c'est sûr. Et alors je pense que les gens qui chopent des héritages, même ne serait-ce que pas un énorme héritage, imagine genre 100 000 euros, je pense que les gens qui chopent un héritage, ceux que je connais en tout cas, ne prennent pas la mesure, ne se rendent pas compte à quel point c'est beaucoup d'argent. Alors 100 000 euros, c'est les économies d'une vie. Moi, mes grands-parents, quand ils sont morts, il y a mes parents qui ont chopé 27 000 euros d'héritage, et c'était les économies de leur vie, quoi. Et c'est énormément de pognon, quoi. C'est un truc... Moi, avec tous les moyens que j'ai mis en place, j'ai soulevé ciel et terre, j'ai lu je sais pas combien de bouquins, je me suis endetté pour de l'immobilier, machin. Et en 9 ans, je suis parti de zéro, je suis arrivé à 400 000. Donc, pour te dire à quel point c'est difficile, pourtant, je fais ça à plein temps, quoi. À moins que t'aies de la chance avec les cryptos ou l'entrepreneuriat ou quoi, mais sinon, pour le kidam moyen, c'est pas facile.
Clairement.
De la patience.
et toi, c'est un peu ton chemin. C'est-à-dire que t'as grindé, quoi. Comment on dit?
Ouais, c'est ça. Ouais,
t'as galéré, quoi.
C'est exactement ça. Mais l'idée, c'était de faire un blog aussi où je raconte un peu ça au fil de l'eau. Et puis, je donne mes idées, mes états d'esprit. Et voilà, j'avais beaucoup de... Enfin, je reste quand même beaucoup sur les plans pour économiser des petits centimes et tout. Parce que je sais que c'est des trucs qui m'auraient plu quand j'étais collégien, lycéen, étudiant. Même si moi, je les utilise maintenant juste pour les tester et en faire un article. Mais après, voilà, je m'emmerde pas à aller faire des sondages rémunérés, par exemple, parce que ça va rapporter que quelques euros par mois.
Ouais.
Donc, ça, c'est intéressant pour certaines catégories de personnes, mais pas pour d'autres, quoi. Si t'es actif et que t'es trop pris par ton taf, tu vas pas t'emmerder à faire ça. Mais si t'es lycéen, c'est cool.
Ok.
Donc, voilà, j'ai quand même un peu gardé cet état d'esprit-là. J'essaie de pas m'en éloigner. De toute façon, je pourrais jamais m'en éloigner vu que j'ai grandi comme ça.
Et ouais, tu crois?
Ouais.
Franchement, si, je suis pas d'accord avec toi.
Bah, tu sais, quand je vais au resto.
C'est tout mon travail sur ce podcast.
Ah ouais, tu penses?
Tu vois, il y a un truc où, en fait, rien que le fait de le dire, je trouve que ça te fige là-dedans.
Ouais.
Et alors certes, ouais, ça t'a aidé certainement par plein d'aspects, mais j'ai l'impression que la façon dont ça t'a aidé en 2009 par rapport à aujourd'hui, bah, déjà, tu vois bien que tu l'utilises plus de la même façon.
Ouais.
C'est-à-dire que t'es plus dans d'aller chercher les petits sous, comme tu dis, tu vois.
Ouais, ouais.
Donc, t'as déjà évolué, mais c'est intéressant, tu vois, que tu dises... Je me rends pas compte, en fait, à quel point, mais on va en parler, à quel point il y a un aspect aussi de crispation, tu vois, derrière, par rapport à l'argent, qui est évident, tu vois, par rapport à tous les gens qui nous manquent, etc. C'est super dur. Et je me pose toujours la question de à quel point.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
J'ai interviewé, tu vois, tu parlais tout à l'heure d'escrocs, etc. J'ai interviewé un gars dont je vous mettrai le lien dans les notes, Michel, qui racontait qu'en fait, il a volé toute sa vie au supermarché, tu vois, parce qu'il n'avait pas d'argent, etc. Ouais. Et en fait, là, aujourd'hui, qu'il a un job qui rémunère très bien, et voire même qu'il le met tout de suite dans les salaires, il continue à voler.
Ouais.
Il dit, putain, j'ai un môme. Je suis emmerdé parce que j'ai pas envie de lui refiler ce truc-là parce que moi, mes parents m'ont appris à faire comme ça. Il dit, mais j'ai plus envie. Et mais donc, c'est un travail compliqué, quoi. Tu vois.
Mais je pense aussi que la kleptomanie, c'est une petite addiction. Enfin, t'as cette petite.
C'est l'aspect filou dont. Tu vois, tu disais que ton père était filou.
Moi, je suis pas kleptomane. J'aime pas du tout voler. J'ai déjà essayé de le faire quand j'étais petit. Et, franchement, je sais pas, j'aime pas. Mon père le faisait. Bon, là, il le fait plus, mais voilà. Mais il en était tout content, d'ailleurs. Mais non, moi, je suis pas fan de ça. Bon, parce qu'effectivement, c'est vrai que si tu voles, les prix augmentent pour tout le monde. Là, pour le coup, dans un supermarché, je pense que c'est pas pareil que sur les plateformes de streaming.
J'aime trop comment tu fais deux poids, deux mesures. Mais intéressant.
J'ai du mal à... parce que pour moi, c'est vraiment pas le... C'est pas pareil, quoi, parce que... Ah putain, je sais pas comment l'exprimer.
Non, mais en fait, pour moi, c'est pas grave. C'est juste une échelle de valeur. Échelle de valeur, t'as sans doute un truc qui est... Où tu te dis, ok, eux, j'ai le droit. Peut-être, en fait, dans les carrefours, les supermarchés, etc., peut-être que j'ai un peu moins le droit, parce qu'en fait, c'est un truc tangible.
C'est vrai que... Oui,
et l'épicier du coin, ou, je sais pas, le petit épicier, le petit fromager, etc., tu vas pas aller lui piquer des trucs parce que c'est son petit business à lui, quoi.
Bah, c'est comme ça que les kleptomanes le
justifient, entre guillemets,
souvent, en disant, Carrefour, ils sont au CAC 40, on s'en fout, machin. Mais non, pour moi, la différence entre Carrefour et Netflix, c'est que Carrefour, il y a 10 saucissons. Si t'en voles un... ça va être 10% plus cher pour tout le monde. Alors que Netflix, il n'y a pas 10 comptes Netflix, il y en a autant qu'ils peuvent en créer. Donc,
c'est la bande passante, ça coûte cher.
C'est ça. Ouais. En tout cas, ça ne coûte pas 10 balles par personne par mois.
Non, et puis la production de tous ces trucs, ça coûte super cher.
Après, effectivement, que c'est malhonnête, hein. Ça, je ne vais pas te dire le contraire. Mais bon, écoute, chacun ses valeurs, chacun le voit comme il veut.
Moi, tu sais, je ne suis pas là pour juger. C'est plutôt questionner et interroger et de chercher à comprendre. On va parler de tout ton parcours, mais avant ça, j'ai deux questions que je pose à tous mes invités. Le premier, c'est, si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque?
C'est dur à dire. Je vais partir un peu loin. C'est de l'énergie stockée.
Ah, donc toi, tu stockes.
Ouais, c'est une réserve d'énergie, l'argent. Okay. Ou alors, c'est même du travail stocké.
Que tu stockes.
Ouais, que je stocke, n'importe qui stocke.
Trop marrant parce que c'est... Non, il y a des gens qui stockent pas.
Non, mais je veux dire, tu trouves 10 euros par terre, t'as trouvé une heure de travail, en fait.
Ah, tu le vois comme ça.
C'est...
Rends-toi compte que tu dis ça, tu vois 10 euros par terre, t'as trouvé une heure de travail, c'est toi qui penses ça.
Ouais.
Je crois qu'il y a plein de gens qui vont écouter, qui vont trouver 10 euros par terre, ils vont pas projeter une heure de travail.
Je l'ai pas toujours vu comme ça, mais c'est un truc, je sais plus, qu'est-ce qui m'a fait un petit déclic là-dessus. Je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, l'argent, c'est du travail cristallisé, quoi.
C'est ce que tu projettes.
Voilà, c'est une énergie qui circule et donc tu peux choisir d'en accumuler beaucoup et ensuite t'as des grosses batteries, tu peux aller loin ou tu vois.
Ok.
Un peu comme ça.
Mais donc tu stockes. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, j'ai interviewé un entrepreneur qui lui aussi disait que c'était de l'énergie, mais lui, pour le coup, c'est pas de l'énergie qu'il a envie de stocker, c'est de l'énergie d'investir.
Ah oui, non, pardon, mais je dis c'est de l'énergie qui est cristallisée, si tu veux. Donc, c'est-à-dire, si t'as une pile, tu l'as, ta pile, et après, tu peux la mettre dans ta Game Boy pour faire marcher ta Game Boy, quoi. Donc, donc ta Game Boy, c'est des produits d'investissement.
Ok.
Je sais pas.
Ah, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil de garder ton argent sous ton matelas.
Ah ben non, c'est nul, ça.
Je sais pas si c'est nul, c'est juste...
Si tu veux en perdre, en tout cas, c'est bien.
Mais... Alors, tu vois, typiquement, moi, je vois des gens qui ont besoin de garder l'argent sous leur matelas, qui ont peur de l'investir parce que, justement, ils ont des peurs. En fait, ils préfèrent ne pas investir leur argent que de prendre le risque de le perdre.
Alors ça, de mon expérience, c'est toujours une mauvaise idée d'écouter ses émotions par rapport à l'argent. T'as peur. Pourquoi t'as peur? C'est le truc classique, c'est l'immobilier. Pourquoi t'as peur de l'immobilier? Tu vois, moi, par exemple, j'ai investi en immobilier la première fois. Donc, j'avais rien du tout. Je prends un boulot dans un call center. Donc, j'ai déménagé à Paris à ce moment-là pour ça, parce que je trouvais rien. Et je me suis dit, je vais prendre un boulot en CDI. Et au bout de 3 mois, c'est là que ton CDI est confirmé et que tu peux aller dans une banque pour demander un emprunt, un prêt immobilier. Donc, j'ai pris un prêt immobilier pour un petit appart à 50 000 euros à Toulouse. Et moi, je restais locataire. Donc, j'ai mis tôt que c'était pour y habiter, parce que sinon, la banque, elle ne veut pas te prêter. Et donc, 50 000 euros, je me suis dit... c'est pas une somme monumentale non plus, c'est pas la fin de ta vie. Tu peux le louer 500 balles par mois, alors que le remboursement des mensualités, c'est 270. Mmh. Bon, si tu rajoutes à ça les frais, machin, en gros, il se paye tout seul et tu gagnes 30 balles de plus aussi par mois.
Ok.
Sans compter la plus-value, parce qu'il y en a une depuis le temps, du coup. Et donc, j'en profite pour le dire, c'est le levier d'enrichissement le plus accessible à tout le monde, quoi. Vraiment le levier de l'immobilier, c'est-à-dire emprunter à la banque pour acheter un appart pour le mettre en location. Il y a des livres là-dessus, c'est très intéressant.
Et alors, tu vois, moi, typiquement, je crois que je me suis emmerdé le cul pendant 2 ans, sauf cette dernière année, parce que j'étais en train de louer mon appart, cet appart dans lequel je suis, là, je le loue. Je loue cher.
Ouais.
En fait, j'avais ce truc de t'es pas en train d'investir. Et en fait, j'ai fait la paix avec ça parce que je me suis dit, mais en vrai, bats les couilles, t'es dans cet appart, t'y es bien. Certes, il te coûte cher. En fait, effectivement, c'est de l'argent que en tout cas dans ma tête, je jetais par les fenêtres, tu vois. Et j'ai fait la paix avec ça parce que je me suis dit, en fait, c'est cet appart où je suis bien, où je vis. Et en fait, ça vaut la peine de foutre cet argent-là parce que ça me procure du bonheur, tu vois.
Après, oui, voilà.
On est d'accord.
Il y a ça aussi.
Comment tu te positionnes par rapport à ça?
Moi, je dis, moi, la quête de l'argent, c'est j'ai gamifié ma vie, en fait. Mmh. C'est vrai, parce que je savais pas quoi faire. Je manquais de direction et je me suis dit, tu sais quoi. Et bon, en fait, je me suis heurté à la réalité du monde du travail qui est pas glamour du tout. Et je me suis dit, putain, je peux pas faire ça pendant 40 ans, ça va me saouler. Et il faut que je trouve autre chose. Donc, voilà, j'en ai fait mon cheval de bataille. J'ai envie de devenir millionnaire. J'ai envie de devenir rentier. Voilà. Si toi c'est pas ton truc, eh ben c'est pas ton truc, et pas de souci. Bon ben okay. Voilà, ben, si ça te va comme ça. Et par contre pour le commun des mortels, j'ai remarqué le investir dans acheter ta résidence principale, c'est quand même le meilleur investissement. Si tu restes comme moi, t'es locataire et que à côté t'investis ta thune, c'est cool. Mais si comme la plupart des gens, t'es locataire et tu dis ouais j'investis, ouais je mettrai de côté un jour et tu le fais jamais, eh ben tu fais jamais rien, tu construis jamais rien. Alors que si t'achètes ta résidence principale, tous les mois tu dois rembourser un crédit, ça c'est de l'épargne forcée et voilà. Bah, pour la plupart des gens, je pense que c'est bien parce que
oui je suis d'accord avec ça. C'est juste j'essaie de comment dire d'enlever cette pression à tout prix acheter parce que on oublie parfois les coûts cachés qu'il peut y avoir derrière l'achat d'un appart, quoi, tu vois.
Les coûts de copro,
il y a plein de charges dont on ne parle jamais et qui, en plus, t'obligent, entre guillemets, à vivre là pendant au moins un certain nombre d'années avant de pouvoir te barrer, quoi. Et donc, ça t'enlève aussi, quelque part, une certaine forme de liberté si tu ne sais pas forcément où tu veux vivre dans les, on va dire, 10 ans à venir.
Ouais.
C'est pas forcément un bon calcul.
Moi, je suis beaucoup mieux à être toujours locataire là, et je peux me barrer quand je veux. Et voilà. C'est très bien comme ça.
Ouais, donc finalement, t'as
Locataire de ma résidence principale et propriétaire d'appartement que je loue.
Donc très bien. Énergie stockée, l'argent. Ouais. Ton premier souvenir en rapport avec l'argent. Souvenir marquant.
Je sais pas trop. Je pense c'était quand j'avais 3-4 ans. Si je me souviens. Le moment où j'ai compris ce que c'était l'argent et à quoi ça servait. Je devais avoir 3-4 ans et puis on me donne une pièce de 10 francs. Donc c'est là que je me souviens avoir tilté que « Ah ouais, mais je peux aller acheter des bonbons avec !» Tu vois, et bon, voilà. Et puis à partir de ce moment-là, bon après, comme mon père, il est très dans les jeux d'argent, il y a beaucoup ce côté filou et tout, donc j'ai beaucoup été éduqué avec le goût de d'aller gratter de la thune là où je peux. Et, donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai toujours cherché les bons plans.
Tu peux me raconter ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'aspect filou et dans quelle éducation t'as évolué justement?
Mes parents... Alors déjà ma mère est aveugle, donc c'est mon père qui gère tout, quoi, plus ou moins. Et mes parents, mon père il compte pas bien, désolé, mais c'est vrai, il compte pas bien, il gère pas bien ses sous. Après c'est pas non plus la catastrophe, comme voilà, maintenant ça va, mais genre quand on était petit, on était surendetté. Crédit revolving, crédit pour faire un crédit conso pour acheter un canapé pour partir en vacances, c'est véridique, hein, tu vois. Et au bout d'un moment, ça nous a rattrapé, donc on s'est retrouvé sous tutelle à 50 euros par mois pour vivre à 4.
Et t'avais quel âge?
J'avais 12-13 ans à ce moment-là.
Comment tu vis ce moment-là?
C'est pas grave, tu vois, moi c'est ma vie. Mais c'est vrai que quand je voyais les autres enfants qui avaient telle console, tel jeu et tout. Qui partait en vacances, surtout qu'en plus on n'avait pas de voiture parce que mon père aussi est malvoyant, très malvoyant, donc il a perdu son permis au bout d'un moment et on partait jamais en vacances. Enfin, on était des galériens, quoi, vraiment des gros galériens. Et moi, ça me frustrait parce qu'en plus de ça, à un moment, je m'étais aperçu qu'en fait, mes parents, ils gagnaient de temps et ils n'arrivaient pas à mettre de côté, mais c'est pas normal, quoi. Ils devraient pouvoir y arriver. Et effectivement, en grandissant, j'ai fini par comprendre que ouais, c'est juste qu'ils gèrent mal, quoi. Ils gèrent mal comme beaucoup de gens, malheureusement.
Comment tu t'es rendu compte de ça?
Déjà les crédits, en fait.
Parce que quand t'as été élevé là-dedans.
Ouais.
Pour toi, c'est comme tu disais, c'était ta vie, quoi, tu vois. À quel moment tu t'es dit, putain, en fait, les crédits, c'est de la merde, tous ces trucs, en gros, mes parents ont mal géré leur argent, quoi.
Je pense que honnêtement, moi, j'ai un esprit beaucoup plus rationnel que celui de mon père ou de ma mère.
Tu comptes.
Ouais, je compte, quoi, voilà. Et puis ensuite, j'ai vu les conséquences que ça avait, quoi, qu'ils s'engueulent tout le temps à cause de la thune, qu'on se paye pas tout ce qu'on pourrait se payer par rapport à d'autres amis que j'ai qui, eux, sont bien mieux. Donc je me suis dit bah et puis même c'est là pas du gain hein. Après ça voilà, il y a une espèce de, tu sais, c'est un peu un sujet tabou en France, tu t'as pas trop le droit de dire. Enfin, je le dis clairement, c'est la pas du gain, quoi. C'est de pouvoir aller chercher la thune, et voilà, c'est tout. C'est pour...
Ça veut dire quoi, la pas du gain? Je comprends pas.
C'est, bah, c'est, j'ai envie d'avoir de l'argent. J'ai envie d'avoir,
toi, tu veux dire.
J'ai envie j'ai toujours envie d'en gagner toujours plus. Donc, donc
mais
voilà.
T'as l'impression que c'est en réponse entre guillemets à cette éducation où c'était un peu.
Peut-être.
Frustrant, quoi, pour toi?
Peut-être, mais... Alors oui, mais d'un côté, j'en ai pas non plus trop l'impression. Enfin, pour moi, c'est un jeu d'aller chercher l'argent. C'est un objectif que je me suis mis. Peut-être que ça vient de là, ouais. J'en ai pas totalement l'impression, mais bon, bah, sûrement que ça vient de là, hein, même si... Parce que bon, j'ai quand même grandi dans une famille comme ça. Je me suis dit aussi que j'arrêterais d'être un galérien et que je referais pas les erreurs de mes parents. Ouais. Mais ça, c'était un peu plus tard.
Autour de quel âge?
Je sais pas... À partir de 17 ans, j'ai commencé à me dire ça.
Ok.
Tu vois,
Et pourtant, tu as fait des études, comme tu disais, de langue étrangère appliquée, c'est ça?
Ouais.
C'était pas forcément, a priori, les études les plus calées pour gagner de l'argent, quoi.
Non, mais parce que je me suis jamais vraiment reconnu dans tout le délire école de commerce.
Ok.
Donc j'ai fait l'école de commerce du pauvre, LEA. Petite dédicace à ceux qui...
Pour toi, c'est une école de commerce, LEA?
Non, mais.
Enfin, bizarre.
Non, justement. C'est pour ça que je dis ça. C'est parce que LEA, il y a un petit peu de commerce, beaucoup de langues, et puis on sait pas trop où on va. Et puis surtout, il y a aucun accompagnement. Évidemment, quand t'es à la fac, les alumni, ça n'existe pas. Les services d'orientation, ils sont à la ramasse. Donc c'est de la merde, quoi. C'est vraiment de la merde. Après, c'était très bien. J'ai passé des bonnes années là-bas. Parce que moi, les langues, c'est ce qui m'intéresse de base. J'étais là parce qu'il faisait chaud et qu'on apprenait l'anglais, l'allemand. Et c'est ce que j'ai fait. C'était très bien comme ça. Mais après, effectivement, j'y allais sans trop de projets professionnels, mais c'est aussi parce que ma famille n'est pas comme ça. Parce que si tu as deux parents qui ont des bonnes situations ou alors qui sont au courant de ces choses-là, eh ben, ils vont t'aider. Mais moi, mes parents, ils étaient un peu plus déconnectés de tout ça. Donc,
C'était quoi leur activité?
Ma mère n'a jamais travaillé. Ouais. Voilà. Mon père, il était jardinier.
Okay.
Mais ouais, tous les réseaux d'anciens élèves, quand il s'agit d'obtenir un stage où j'avais des potes qui dont les parents connaissaient quelqu'un, moi non, tu vois.
Tes parents n'ont pas fait d'études, quoi.
Ouais, non, voilà. Donc moi j'y suis allé en mode balestec à la fac, comme ça, je voulais juste apprendre les langues et je verrais bien après. Donc je voulais devenir soit steward, soit prof. Soit traducteur. Donc j'ai essayé, d'ailleurs j'ai été steward un petit peu, j'ai été prof une journée, j'ai arrêté.
Une journée.
Et en fait à chaque fois j'ai déchanté, quoi, parce que je me disais ouais, c'est bon, tu vas faire la fac, tu vas aller jusqu'au bac plus 5 là et tu vas choper un boulot payé genre 3 000 € direct et tout, et puis en fait non, c'est pas du tout ça. et à ce moment là je me suis dit ouais non, ça va pas marcher comme ça, il va falloir que je fasse quelque chose. Et donc j'ai accepté quand même de prendre un petit boulot dans un call center qui était bien quand même, ça dit en passant, ça va.
Donc ce fameux boulot qui t'a permis de pouvoir ouvrir,
voilà,
ton premier
prêt,
parce
qu'il me fallait un boulot pour une raison. Et alors mes anciens collègues de ce travail que je vais voir pas plus tard que cet après-midi, je vais aller boire un verre avec eux, mais ils bossent encore là-bas et c'est vrai que ils sont peut-être à court d'idées machin, mais en fait ils sont comme beaucoup de monde, ils sont dans un boulot qu'ils aiment pas trop, mais voilà, c'est un boulot
semi-alimentaire, quoi, ouais. C'est ça.
Après voilà, c'est aussi normal, tout boulot n'est pas épanouissant. Si t'as un boulot qui est épanouissant, c'est vraiment bien pour toi et il faut que t'en profites. Mais voilà, bon, ils sont là parce qu'il faut gagner de l'argent et cet argent, ils le dépensent. Alors que moi, j'étais là vraiment dans l'optique de me dire, ok, je vais me serrer la ceinture, l'argent que je gagne là, je vais l'investir, le CDI, je vais emprunter de l'argent à la banque. Voilà, il faut vraiment que le but, c'est pas de rester là 40 ans, quoi. Le but, c'est d'utiliser ce boulot-là, de prendre tout ce qu'il a à m'offrir en termes financiers et de me barrer le plus vite possible.
Mais d'où est venue cette éducation financière? Parce que, enfin, en plus, on va en parler, mais ton père, tu racontes qu'il a un peu un côté...
jeu d'argent, etc.
Donc en plus, ça peut être des paniers, c'est un panier percé incroyable, ce truc-là.
Ouais, non, mais ce qui est marrant, c'est que les gens qui jouent au casino, au PMU et tout, ils vont toujours te dire que, ouais, en gros, ils gagnent pas, ils perdent pas s'ils devaient faire le total depuis le début. Ouais, ils sont ni gagnants, ils sont neutres, quoi. Mais moi, depuis que je suis tout petit, je me suis toujours dit, mais tu vois pas qu'il y a des gens qui sont employés dans le PMU, là, il y a des, je sais pas, il y a un budget publicitaire, il faut les imprimer, les tickets à gratter, les machines à sous, il faut les développer. Enfin, c'est pas possible.
C'est une entreprise rentable, forcément.
Ben oui, ben bien évidemment. Donc, il faut bien faire la part des choses. Mmh. Que c'est, quand tu joues à un ticket à gratter, moi aussi, j'en achète des fois, mais c'est juste pour le plaisir, quoi. Mais j'en attends pas une source de revenus. C'est totalement
illusoire.
Alors que ton
père, il avait une idée de, ok, c'est peut-être le moment ou jamais de devenir riche, quoi.
Ouais. Il a toujours cette. Comme beaucoup de gens qui sont un peu à court d'idées, il se dit, oh, vas-y, je vais jouer, et puis dans l'espoir de gagner et tout. Mais c'est complètement illusoire. Je pense que, en fait, le piège, c'est que tu vas jouer au loto. Tu vas dire, bon, si je perds 2 euros, c'est pas bien grave. D'ailleurs, le loto, c'est le taux de redistribution le plus nul. C'est genre dans les 60 ou 50% de gains redistribués aux joueurs. Si je dis pas de conneries, au casino, c'est 90%.
T'as fait sur le sujet.
J'ai fait un article où je classe les jeux à gratter du plus rentable au moins rentable. Alors le plus rentable, c'est le millionnaire, 75% je crois de redistribution, et le moins rentable.
C'est des chiffres qui donnent ça, la Française des
Jeux. Ouais,
incroyable.
Ouais, bien sûr. Et en fait non, attends, pardon. Ils donnent pas le taux de redistribution, mais ils donnent de quoi le calculer, quoi. Ils disent combien de tickets gagnent sur combien de tel lot.
Faire un peu les maths, quoi.
Voilà, et donc moi je les ai fait, et en fait plus le ticket est cher et plus c'est rentable pour le joueur, mais ça reste de la merde parce que c'est 75% dans le meilleur des cas, alors que casino t'es à 90-95%, et euro million, loto, tout ce qui est jeu de tirage, là t'es plutôt dans les entre 45 et 60% grand max, donc c'est vraiment le pire. Et donc tu vas jouer 2 euros à l'euro million, t'as des chances de gagner qui sont ridicules. Je pense qu'il est préférable de garder tes 2 euros et de les mettre sur même en fraction de placement immobilier ou de placement boursier, n'importe quoi. Tu les mets, tu ouvres un PEA, un compte, un plan d'épargne en action. C'est gratuit, tu ouvres chez Boursorama, Fortuneo, je sais pas où, là. Tu mets tes 2 euros là-dessus, voilà, ça, c'est ça, mon loto. Au moins, c'est pas grand-chose, mais il vaut mieux gagner pas grand-chose que perdre pas grand-chose. Tu vois, et ça, ça a toujours été ma logique. Et il y a beaucoup de gens que je connais, dans ma famille aussi, notamment ma sœur, par exemple, elle va pas s'encombrer de « ouais, c'est 2 euros, je m'en fous », tu vois. Et elle tient ce discours-là, il y a beaucoup de gens qui tiennent ce discours-là. Moi, non. Moi, 2 euros, c'est 2 euros. Il vaut mieux les garder que les perdre. Les gagner que les perdre. Parce qu'au bout de 10 ans, ça fera une grosse différence.
Ok. Donc t'es un peu dans ce truc de accumuler, quoi, un peu comme tu disais tout à l'heure.
Mais ça vient de la peur de manquer, hein, de quand j'étais petit, hein, ça c'est
on
sûr.
On peut en parler si tu veux de cette peur de manquer.
C'est sûr et certain.
En fait, je te demandais tout à l'heure ce que ça générait chez toi, mais tu m'as dit en fait c'était ma vie, etc. Et t'étais plutôt saoulé en comparaison des autres qui avaient peut-être des consoles, etc.
Ouais.
Mais j'imagine que ça crée aussi une forme d'émotion négative.
Ouais,
quoi.
Et puis une forme de motivation à se bouger aussi. De me dire, moi aussi j'ai envie. Parce qu'en plus, comme je te dis, comme mes parents étaient handicapés, qu'on n'avait pas de voiture, on partait pas non plus en vacances et on faisait pas beaucoup d'activités. Ça, c'est pas spécialement à cause de l'argent, mais je voyais les autres qui avaient des voitures et qui partaient à l'étang au week-end et tout. Nous, on faisait pas ça. Donc, je me dis, ah, vas-y, ça me fait chier. Moi aussi, j'ai envie de. Tu vois, mon permis, je l'ai passé à 25 ans. Ma première voiture, je l'ai eu à 32 ans. Parce que j'avais pas que ça à faire de mettre 1000 ou 1500 euros dans un permis. D'ailleurs, je me suis fait payer par Pôle emploi.
Ton permis ?
Le permis, ouais.
Ouais, t'as trouvé.
J'ai harcelé Pôle emploi pour obtenir ça. J'ai envoyé des lettres et tout. Ils ont fini par me dire, ok, c'est bon, on va te le payer. Et voilà, je l'ai eu comme ça. Et pareil, aller gratter les aides sociales, c'est un gros levier, ça. Je pense que. Moi, j'ai jamais compris les gens qui vont pas gratter les aides sociales pour des histoires de fierté ou de je sais pas quoi. Mais non, mais va les gratter, tes aides sociales. Si tu as droit, va les gratter. Elles sont là pour ça.
T'as à la fois une question de fierté, t'as aussi une question de savoir que c'est à ta disposition.
Oui, ouais,
c'est pas forcément très simple. Il y a plein d'aides en France auxquelles t'as droit, mais en fait, l'État on fait pas spécialement la pub, quoi.
Ça pareil, j'ai un article là-dessus où j'avais parlé de ça, où en fait t'as une plateforme de l'État, là, je crois que c'est mesaides.gouv.fr, où tu peux voir à quelles aides t'as droit. Et vraiment, toutes les aides, quoi, même des trucs auxquels tu n'aurais pas pensé, des trucs de la région, de la mairie, tu vois, tu peux avoir les transports gratuits, tu peux avoir des réductions sur les trucs culturels, enfin, il y a plein de trucs.
Et ça, c'est du temps.
Oui.
Parce que moi, tu sais, j'ai toujours un peu ce truc de, ok, de l'argent, d'une manière générale, tu peux en gagner d'une manière ou d'une autre. Le temps, tu le récupéreras jamais de ta vie.
Alors, si ça t'amuse de faire ça, eh ben c'est bien. Voilà, ça, c'est mon cas.
Okay.
Si ça t'emmerde, effectivement, ne le fais pas.
Il y a une forme de... Il y a un peu un côté jeu vidéo, j'ai l'impression.
Oui, complètement. Il faut suivre tes envies. Si ça te saoule de faire tout ça, ne le fais pas. C'est pour ça que je dis pour les gens qui s'en foutent un peu... qui n'ont pas envie d'être H24 là, dans ce genre de truc, il faut que tu essayes d'acheter ta résidence principale, je pense. Après, je ne suis pas conseiller en gestion de patrimoine, mais au moins, ça te fait de l'épargne forcée. Et puis, plutôt que de t'emmerder à aller dans les magasins avec des coupons de réduction et tout, tu vas faire tes courses chez Lidl ou chez Leclerc et puis terminé, quoi.
Parlons un peu de ton blog, de ton idée de vouloir... Donc, si j'ai bien compris, tu avais plein de bons plans, plein de machins. Donc, tu lances ça en 2009. J'imagine qu'à l'époque, tu n'as pas du tout en tête que ça va te permettre de gagner de l'argent.
Alors, j'ai lancé ça en 2015.
Ah, pardon. Ça fait 9 ans, c'est pour ça que je confonds, pardon.
Et en fait, non, j'avais déjà pas mal d'idées. Tu sais, j'avais commencé à mettre à plat les idées. Je m'étais dit, j'ai tant d'idées, je vais toujours pouvoir trouver des nouveaux sujets. Après, je ne sais pas, je vais demander autour de moi, je vais regarder un peu ce qui se fait, ce que les gens veulent savoir et tout. Et puis des fois ça marche, des fois ça ne marche pas.
Mais tu avais en tête qu'il y avait moyen de gagner de l'argent avec, c'est ça ma question
parce que
en vrai, c'est des techniques. Ouais. Alors, c'est de l'affiliation, c'est des trucs qui sont un peu niches, on va dire, qui ne sont pas forcément très, très connus du monde entier. Quoi. C'est des business, c'est des gens qui connaissent, qui sont dans le game.
C'est vrai.
Comment tu as fait pour te dire, ok, je lance ce truc et demain, ça sera l'occasion de pouvoir gagner de l'argent avec.
Alors, dès le départ, je me suis dit, il faut que ça me rapporte de l'argent de faire un blog.
Ah ouais?
Ouais.
C'était pas que pour le plaisir de partager.
Non, je vais pas être dans le faux. J'ai pas le mot qui me vient, mais.
Storytelling, c'est ça?
Ouais, je vais pas te dire, oui, c'est ma grande passion, je le fais gratuitement. Parce qu'il y a, encore une fois, en France, c'est très valorisé de dire ça. Je le fais, je cherche pas l'argent, mais si, bien sûr que si, je cherche l'argent. je vais pas te dire que je fais ça bénévolement.
Ah non, mais il y a des gens qui repoussent l'argent.
Oui, mais
les gens qui ne veulent pas du tout gagner de l'argent.
Oui, mais parce que encore une fois, c'est la France, c'est culture catholique, l'argent c'est sale, machin. Moi je l'assume pleinement. Je me suis dit dès le départ, je fais un blog pour gagner de la thune, parce que je voulais faire une chaîne YouTube au départ. J'étais tombé sur Poisson Fécond, un YouTuber connu qui est toujours en activité d'ailleurs, qui avait fait une vidéo sur combien gagnent les YouTubers, mais il l'a enlevé depuis. Enfin, elle est toujours accessible si t'as le lien. Et il disait qu'en gros, il gagnait 1€ les 1000 vues à l'époque. Bon, alors,
aujourd'hui, c'est très loin de ça. Hein.
Voilà. Mais en attendant, quand j'ai vu ça, j'ai fait putain, c'est pas possible. Vas-y, moi, je suis au chômage, je fais rien de mes journées, je veux trop aller là-bas. À l'époque, moi, j'utilisais. J'avais pas de bagnole. J'étais chez mes parents à Toulouse et j'utilisais les aides de la région. Là, t'avais 10 billets de train dans la région gratos par mois. Je crois que c'est. Non, par trimestre, je crois. Et je les utilisais pour faire des allers-retours en Andorre pour aller chercher des clopes pas chères, des cartouches de clopes, parce que moi je suis non-fumeur, pour pouvoir ensuite les revendre. Donc tu te lèves à 4h du mat pour prendre un bus qu'il fallait réserver à l'avant. Enfin, c'était un bordel pas possible. J'ai fait genre une dizaine d'allers-retours pour aller chercher des clopes, les revendre ensuite à Paris et tout. Et en fait, je m'étais dit, tu vois où j'en étais, quoi. J'étais un peu.
Et tu gagnais combien par.
Tu gagnais, c'était 25€ la cartouche, tu as revendé 50, donc tu gagnais 50 balles par aller-retour, sauf si tu essayais d'en prendre plus au risque de te faire niquer par la douane. Ben voilà. Et d'ailleurs, je voyais des gars.
T'es un hustler, quoi. Quand je vais aux États-Unis,
j'ai vu un gars cacher un sac de sport rempli de cartouches clopes sous l'amortisseur du pneu du bus. Là, les douaniers, ils l'ont pas vu. Je me suis dit, putain, mais lui, c'est un fou. C'est un fou de faire ça. Moi, j'aurais pas osé. C'est trop de perdre des sous. Enfin bon, bref, pardon, je digresse.
C'est pas digresser, c'est ton côté filou dont tu parlais tout à l'heure.
À ce moment-là, je me disais, merde, le gars, les youtubeurs, là, vas-y, ils sont 1€ les 1000 vues, mais moi aussi, je vais faire des vidéos avec mes bons plans, là, et puis je vais me faire de la thune. Après, j'ai regardé, j'ai vu que, comme je suis un peu une feignasse, je voulais pas faire des vidéos, c'était plus de travail que de juste d'écrire, donc j'ai commencé à faire le blog. Et je me suis dit, écoute, on va bien voir. Donc, je vais partager les bons plans comme ça. En fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a un vrai échange de valeurs, puisque toi, tu regardes les pubs sur mon blog ou tu cliques sur les liens sur mon blog. Et moi, en attendant, je t'apporte des vrais bons plans qui marchent bien, quoi. Je mets un point d'honneur. J'ai envie que ce soit intéressant pour le lecteur. Je suis pas là juste pour faire du vieux SEO, une ferme SEO. Voilà. Donc,
SEO, donc pour les gens qui ne l'ont pas, c'est la technique qui consiste à faire en sorte d'optimiser tes pages pour que ça ressorte le mieux possible sur Google, quoi, dans les résultats. Quoi.
C'est pour ça que quand tu cherches comment faire un gâteau au chocolat, tu tombes sur une page avec 3000 mots qui t'expliquent l'historique du gâteau au chocolat, que tu n'en as rien à cirer, toi tu veux juste ta recette. Bah ouais, non, parce qu'en fait, plus il y a du contenu, plus il y a des mots, et plus ça fait de la variété. Plus Google peut te placer haut, quoi, grosso modo.
Donc tu fais ça depuis 9 ans. T'as écrit combien d'articles ? T'as en tête un peu ?
300-400, je pense.
Ok.
Et ouais, je fais un article par semaine. Mm-hmm. Voilà. Des fois, c'est pas moi qui écris, parce que de temps en temps, il y a des articles invités, des rédacteurs. Voilà, donc ça peut être intéressant. Et effectivement, donc mon blog, la première fois, j'ai mis des pubs, des encarts publicitaires Google. Là, et soit dit en passant, pour la personne qui se lance maintenant, si jamais ceux qui nous écoutent ont envie d'en faire de même, je pense que c'est fini le blog. Si maintenant je me lançais avec les mêmes connaissances que j'avais à l'époque, maintenant, dans le contexte actuel, j'y arriverais pas. Il y a trop de concurrence, c'est bouché.
Il y a trop de concurrence, il y a de moins en moins de monde qui lit des trucs.
Ouais.
Tu disais tout à l'heure que tu es en train de te lancer sur TikTok. TikTok et tout,
Je pense sincèrement que celui qui veut se lancer là, qui a rien du tout et qui veut espérer faire un peu de thunes, c'est TikTok. TikTok, tu sors des vidéos TikTok qui font plus d'une minute.
Plus d'une minute, ils te rémunèrent.
C'est ça, ça va vite d'avoir des abonnés sur TikTok. Tu les repostes automatiquement ou pas, avec un outil payant ou pas, sur Instagram et les autres réseaux. Et voilà, tu peux essayer de tenter un truc comme ça, à base d'IA et tout. Maintenant, c'est plutôt ça, je pense. C'est mon expérience perso.
À base d'IA, tu veux dire pour écrire les trucs ou
Pour les écrire, pour les animer. Bon, après, ça fait un peu, ça fait des chaînes cancer, mais bon, voilà quoi, tu peux explorer aussi.
Oh my god. C'est l'internet dont j'ai peur. Que
ouais, moi aussi. Non, mais moi aussi. Alors, moi aussi.
D'écrire.
Moi aussi, mais sauf que la dernière fois, j'ai discuté avec un type qui avait une chaîne TikTok vraiment de merde, tu vois. Genre, c'était une chaîne cancer, tu vois, avec tout en IA. Là.
Quand tu dis cancer, ça veut dire juste que c'est des chaînes qui sont automatiques, quoi.
C'est des chaînes qui sont créées automatiquement. Tout est automatique, tout est scripté par ChatGPT, créé par Midjourney, animé par je sais pas qui. Et qui te raconte une histoire plus ou moins nulle. Et le gars, sauf qu'en fait, il faisait des centaines de milliers de vues à chaque vidéo. Et il se faisait 4000 balles par mois avec ça. Et moi, j'étais là, mais merde, c'est pas possible. Et après, ça peut pas durer autant que les impôts, un truc comme ça, hein, parce que plein de monde va commencer à le faire. Donc je pense que ce qui marche aussi, c'est d'essayer de faire un truc un peu plus qualitatif.
Oui, personnalisé. En fait, ce que tu disais, je crois, juste avant qu'on enregistre, c'est que tu parles de toi. C'est ta première personne. Tu racontes aussi ton propre chemin.
Oui.
C'est pas une putain d'IA qui est en train de faire tous tes articles, quoi.
Bah oui, je pense que c'est quand même intéressant. Les gens veulent s'identifier un peu. Mais moi, je donne ma vraie expérience, quoi. Alors, des fois, c'est pas intéressant. Des fois, c'est intéressant. Voilà. Mais je veux pas t'écrire un article où ça va être que des trucs bateaux, là, où tu sais déjà. Mais c'est pas facile tous les jours, parce qu'en fait on me demande souvent c'est quoi ma meilleure astuce machin, mais bon, le problème c'est que des meilleures astuces, s'il y avait un moyen unique de gagner de l'argent rapidement, tout le monde le connaîtrait. Donc moi je pense que c'est plutôt, désolé, c'est pas très sexy, mais c'est de la patience, de l'éducation. Il faut lire des bouquins sur l'éducation financière. Parce que vous croyez savoir des trucs, mais il y a des trucs que vous savez pas, c'est sûr et certain. Moi, j'ai découvert plein de trucs, et donc, c'est une multitude de pièces de Lego à mettre en place.
Et moi, j'ai tendance à dire, faut d'abord écouter mon podcast, parce que pour moi, le vrai problème, entre guillemets, central, c'est les émotions que tu mets dessus.
Franchement, ouais.
Une fois que tu as un peu compris comment tu fonctionnais dans ton rapport à l'argent et tout, et comment tu... T'as un peu nettoyé ça finalement.
Ouais.
En vrai, tu t'investis beaucoup mieux, t'investis beaucoup plus sereinement et moins de pression émotionnelle dessus, quoi.
C'est beaucoup de psychologie.
Ah bon, ça, ouais. Je ne te le fais pas dire. parlons de ce terme de radin. J'ai un peu l'impression que l'une de tes forces aussi, c'est d'avoir accepté finalement que en fait, je suis radin et que en fait, je veux gagner de l'argent et que d'avoir fait la paix avec ça.
Ouais. Bon, après, ça reste une insulte, radin, comme je te dis. Hein. Donc, peu de monde s'en revendique. D'ailleurs, les journalistes, des fois, quand ils me contactent pour faire des sujets où ils cherchent un profil vraiment comme dans le film Radin, tu vois.
Le film avec Lucchini, là, c'est ça ?
Non, c'est Danny Boone.
Ah oui, ok, oui.
Moi, quand je l'ai regardé, j'ai cringé quand même, hein, parce que c'est quand même une grosse caricature et je suis pas comme ça. Enfin, je pense pas. mais les journalistes, ils veulent ça. Ils font des appels à témoins. Là. Ils veulent trouver quelqu'un de genre un extrême radin, tu vois. Mais genre, non, tu vas pas trouver quelqu'un qui va se mettre en scène comme ça. Il y a pas beaucoup de gens qui acceptent de faire ça. C'est une insulte, quoi. Donc, et après, j'avais lu un truc très intéressant. C'était un truc de recherche d'une université américaine, je sais pas, sur les différents types de radins et d'économes. Parce que souvent, les radins vont dire, je suis pas radin, je suis économe. et en fait, tu vas avoir. Donc, t'as l'économe, t'as le consommateur malin et t'as le radin. Je crois que c'est un truc comme ça. Et donc, en fait, le radin, vraiment, ce qui le différencie, c'est que ça lui fait mal. C'est une douleur de dépenser, tu vois. Et moi, j'ai ce côté-là, je pense. Après, voilà, tout n'est pas noir ou blanc. Tu peux être un peu de l'un, un peu de l'autre. Moi, je suis un peu consommateur malin, un peu radin. Clairement, c'est vrai qu'à ce jour, encore aujourd'hui, ça me fait toujours un peu mal. Mais quand même beaucoup moins qu'avant. Qu'au début du blog, je disais que ça me faisait toujours mal de payer un verre à quelqu'un, mais que je le faisais quand même parce que je place les relations sociales avant tout le reste, parce que ça sert à quoi de vouloir avoir de l'argent si t'es tout seul et que comme un con t'as pas d'amis, c'est nul. Et maintenant ça me fait beaucoup moins mal quand même, mais il y a toujours ces petits trucs en arrière-plan, je me dis ah, je dépense de l'argent, c'est pas très...
Pourquoi ça te fait mal?
Ben parce que je me sépare de mon argent. ça me le faisait beaucoup plus avant, mais je l'ai combattu. Maintenant, ça me le fait, ouais, franchement, quasiment plus.
Est-ce que c'est parce qu'il y a un côté où tu te dis, OK, ce verre que je vais payer peut-être 5 balles à cette personne, c'est de l'argent que je vais pas faire fructifier par ailleurs?
Ah oui, totalement, complètement. Mais c'est pour la même raison aussi que hier, par exemple, avant de prendre le train, je me suis payé un sandwich poulet mayonnaise.
Mais qui est ouf!
Ouais, mais tu vois, justement, à chaque fois que je me paye un truc que je pouvais pas me payer il y a 15 ans, parce que j'étais étudiant, j'avais 400 balles par mois pour vivre, je m'en délecte d'autant plus. Je me dis, je peux me le payer. Genre, le kebab, je peux me le payer, tu vois. Genre, je l'apprécie plus, c'est sûr.
Ouais. Bon, en attendant, ça, c'est un kebab ou un sandwich, c'est pas non plus un gastro.
Mais c'est un petit plaisir de s'en rendre compte, de dire, c'est bien, quoi. Au moins, j'ai évolué là-dessus.
Ok. Tu gagnes beaucoup d'argent avec ton blog?
T'en
parles publiquement?
Alors, je donne pas le chiffre exact parce que déjà, de toute façon, ça change tout le temps au gré des partenariats aussi.
Oui.
Mais je dois être environ à 3000, je pense.
Par mois?
Ouais.
Qui te permet de pouvoir...
Ouais. Et puis après, tu rajoutes, j'ai de l'immobilier, 1000, 1500, ça dépend des mois, ça dépend des charges.
C'est pour ça qu'en tête, j'ai 400 000 euros.
Ouais.
Mais par exemple, tu prends ces 3000 balles en compte?
Non, ça c'est 400 000.
Ça c'est ton patrimoine, 400 000 euros, c'est ton patrimoine.
C'est le patrimoine que j'ai pu construire avec de l'immobilier, en faisant avec des actions, enfin des trucs en bourse, des machins, voilà quoi.
Bravo.
Merci.
Non mais d'où tu viens, j'ai l'impression que c'est un peu...
Ah non, mais c'est ça que je voulais te dire, c'est qu'au début pour le blog, en fait je me disais, je vais créer un blog, je vais mettre de la pub, si j'arrive à ne serait-ce que rembourser l'hébergement qui est à 20 euros par an, je considérerais que c'est un succès. Et puis après je me disais, si j'arrive à gagner 100 balles par mois, ça fera un complément de revenu, je pourrais mettre ça de côté pour investir, acheter des parkings ou des apparts et les louer. Et faire grossir la boule de neige. Et c'est arrivé plus loin que ce que j'imaginais, donc c'est bien. Et j'ai envie de dire un truc aussi. Je pense, contrairement à beaucoup de gens, ce que j'ai bien fait, c'est que j'ai fait. Je me suis lancé. Il y a beaucoup de gens que je connais qui ont une idée en tête. Ils se disent mais je le ferai, mais je le fais pas tout de suite. J'attends, tu sais, ils attendent le moment parfait. Moi, dès le départ, je me suis dit non, je m'en branle, je vais faire un blog moche et il sera moche. Et il était moche. Et en plus, les premiers articles, ils étaient nuls, vraiment nuls à chier. Quand je retombe dessus, je me dis oh là là, comment j'ai pu publier une poubelle pareille. C'est pas grave, c'est en bloguant qu'on devient blogueron. Donc tu vas faire tes vidéos YouTube là, ou tes vidéos TikTok qui seront très moches, très nulles. Et puis au bout d'un moment, elles seront un petit peu mieux. Et puis si ça marche bien, si t'y prends goût. Si tu prends plaisir à ce que tu fais, tu feras des trucs un peu mieux et puis voilà, c'est pas grave. Donc faut pas attendre le moment parfait parce que sinon dans 5 ans t'auras pas commencé, c'est ça que je veux dire.
Et toi tu t'es lancé, aujourd'hui tu regrettes pas en tout cas?
Non, je regrette pas.
T'as arrêté ton fameux job en CDI, c'est ça?
Oui, je l'ai arrêté le jour de mes 30 ans.
Ok, t'as quel âge?
J'ai 35.
Ok.
Donc en 2019, ouais.
Ah ouais, donc ok. Et depuis t'es à plein temps sur ton blog?
Ouais, et sur mes investissements aussi. Et puis d'autres, des trucs, je vais être associé avec un ami dans d'autres business et bon, bah, y a d'autres trucs à côté, quoi. Je fais pas que ça parce que j'essaye de me diversifier dans l'investissement, dans les business. Okay. Voilà.
T'arrives un peu à profiter, à dépenser de cet argent que tu gagnes en dehors du sandwich poulet mayonnaise.
Ouais.
Est-ce qu'il y a des trucs où tu te dis, ok, ça c'est un kiff et j'ai envie d'y aller, même si ça coûte cher en fait, tu vois?
Ça m'arrive, mais je fais pas non plus n'importe quoi. Mais bon, là par exemple, je pars en voyage. Demain, je m'envole pour la Thaïlande pour 3 semaines avec un ami qui lui aussi a une très bonne gestion de l'argent, mais pas dans le même style que moi. Mais bon, voilà. Et c'est un ami de la fac et on s'entend très bien et c'est cool, donc je suis content de pouvoir partager ça avec des potes qui peuvent aussi me suivre, donc c'est bien. Puis après voilà, c'est un billet d'avion à 400 euros, c'est pas non plus tu vois, c'est pas
le coup, t'es à l'aise avec le fait de dépenser 400 balles pour
oui ouais. Oui, mais effectivement il y a toujours ce petit truc derrière, ouais. Il faut que je me force un peu, mais oui, non, je me dis
ouais, pardon,
je me dis c'est bien, maintenant je peux me payer ça, c'est bien quoi.
C'est plus fluide qu'avant.
Ouais, okay. Largement.
C'est même vrai. Si t'as toujours un peu ce truc.
C'est vrai, ouais.
Comment tu fais pour l'enlever ce truc, tu crois?
Eh ben, tiens, il y a une image qui me revient, c'est mon père qui a des problèmes de dos et le kiné qui lui avait dit, ouais, mais bon, vous voyez, c'est comme une feuille de papier, quand on l'a pliée, on peut jamais vraiment enlever le pli, quoi.
Waouh, cette image est incroyable.
Bah, c'est vrai, hein. Et tu peux essayer de le repasser et tout, il y aura toujours une toute petite trace. Hein, bah ouais. Voilà, c'est ça. Hein.
N'importe quel
traumatisme, c'est ça, de toute façon. Ouais.
Tu crois que tu vas pas réussir à...
Non, mais c'est pas grave.
T'as réussi à faire un peu diminuer la pression quand même.
Ouais,
quoi.
Ouais, bah largement. Je pense que juste, il faut pas que ça devienne une névrose. Et d'ailleurs, là où ça devient une névrose, c'est en fait, c'est quand les gens qui cherchent à plus économiser l'argent que gagner plus. Ça aussi, c'est important. Économiser, alors, genre dépenser moins, c'est bien parce que tu dégages la thune pour la réinvestir. Ok, mais le plus efficace, c'est de chercher à gagner plus. Donc pour n'importe qui, le plus efficace, ça va être essayer de trouver des moyens de, genre, tu vas bosser le dimanche, moi c'est ce que je faisais tous les dimanches, tous les jours fériés, le 1er janvier à 8h, j'étais là, je répondais aux appels et je gagnais 3 fois plus ce jour-là, mmh. Et même si j'étais complètement gueule de bois de la veille. Ouais.
Non, parce que tu disais qu'il y avait t'as un côté aussi un peu branleur, quoi, tu vois, que t'as ouais, pas vraiment envie de taffer et t'es un peu fainéant, comme tu disais tout à l'heure. Je sais pas si c'est le mot que t'as utilisé, mais en
si,
tout cas...
Si, oui, si. Non, mais c'est
mais
vrai.
Là, pour le coup, t'y allais, quoi.
C'est vrai, c'est très juste ce que tu dis, ouais. Bah, je sais pas pourquoi. Parce que en fait non, c'est ça, parce que je pense que je préfère travailler maintenant plus pour gagner plus, dédicace, en sachant que ça, en fait, je préfère savoir que je travaille une journée maintenant et que je vais avoir pour avoir 2 journées de libre plus tard.
Okay.
Plutôt que cramer cette journée maintenant, en profiter tout de suite et ne pas avoir 2 journées.
Ok, d'accord.
Donc il y a un côté prévoyant, calculateur. Ouais.
Bon, ça m'a l'air d'être... C'est ton game, hein.
Ouais.
Ok, est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont t'aurais aimé parler?
Comme ça, brûle pour point.
J'aime bien, t'as dit bien brûle pour point.
Ouais, ouais, j'utilise des expressions intelligentes, moi. Je sais pas, ouais, non, de quand... Bah, après, il y a tout ce qui est... Il y a la bagnole.
Qu'est-ce qu'elle a, la bagnole?
La bagnole, c'est vraiment un truc... Alors après, les gens qui sont à la campagne, ils vont me critiquer, mais remarque, moi j'ai vécu en rase campagne sans voiture.
Comment tu faisais?
Eh ben, avec des bus, avec des vélos. Et quand je te dis des bus, c'est des bus départementaux. Il y en a un le matin, un le soir.
Dire, hein,
c'est
faut... pas des...
oui. Parce que j'habitais dans un petit village quand j'étais petit, un village de 4000 habitants en Corrèze, tu vois. Et c'était la merde. Mais bon, sans aller dans cet extrême, mais évidemment, quand t'es en campagne, t'as besoin d'une voiture, voilà. Mais est-ce que t'as besoin de 2 voitures? Ça, c'est une question. Est-ce que ta voiture, elle a besoin de coûter 20 000 euros? Parce que moi, la voiture que j'ai, c'est une bonne occasion. Il m'a coûté 4 500 et c'est très bien comme ça. Est-ce que quand
il y a un côté, c'est un outil, quoi.
Oui, voilà. Quand t'es dans une ville de 10-20 000 habitants, t'as pas forcément besoin d'une voiture. Ou alors, si t'as une voiture, tu prends une vieille voiture. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, trop souvent, les gens vont faire bling bling et vont prendre un crédit voiture, sachant que le crédit auto. Alors, souvent, on entend ça. Il faut jamais faire de crédit, sauf pour une voiture ou pour une maison. Et ça, c'est faux. Faut jamais faire de crédit pour une maison. Mais alors, pour une voiture, c'est beaucoup plus. Pardon.
Faut jamais faire de crédit pour une voiture.
Voilà. Non, ouais.
Dans ta tête.
Oui, voilà. Alors, en fait, la maison, c'est OK, il n'y a pas de souci parce que tu achètes un actif. Donc, tu achètes un truc qui prend de la valeur. ta voiture, elle, c'est un passif, elle coûte de l'argent et elle se déprécie. Donc ça te coûte triplement de l'argent puisque tu payes aussi pour emprunter de l'argent. Donc moi, je me dis, en fait, moi, mon credo, ça a toujours été ne pas dépenser l'argent qui ne m'appartient pas, quoi, surtout. Alors, peut-être que tu peux t'acheter une voiture à crédit dans certains cas, voilà.
Bah, si
tu
en as besoin pour trouver un job, par exemple, c'est important de prendre un crédit pour pouvoir te payer une voiture un peu pas trop chère, quoi.
Bien
tu
sûr,
vois,
mais le problème, c'est que dans la pratique, je vois trop de monde qui prennent des voitures au-dessus de leurs moyens, en fait. Il faut vivre légèrement en dessous de ses moyens et jamais au-dessus, parce que sinon, tu crois droit au mur. Si tu prends une voiture pour faire bling bling à 20 000 balles, alors que t'as clairement pas les moyens et que tu pourrais très bien prendre une 207 SW comme celle que j'ai qui est très bien. Et voilà, ça roule bien, tranquille, t'as pas besoin de cramer trop de thunes, parce que sinon tu vas te coller un crédit à 200 € par mois, ouais. Et c'est 200 € qui n'iront pas pour investir sur d'autres trucs. Et là c'est 200 €, c'est pas 2 €.
Oui, mais en fait, si t'as les moyens et que pour moi... Tu vois, et à un moment donné, c'est un truc qui te fait kiffer d'avoir une belle voiture. En fait, j'ai aussi envie de dire aux gens, en fait, si t'as la thune pour te payer un truc qui te fait plaisir, en fait, à chaque fois que tu vas dans ta caisse, t'es là, yes!
Alors oui, c'est
tu
vrai.
Vois si, moi, je valide cette approche.
C'est vrai, si c'est ce qui te fait plaisir.
À la fin, on meurt, hein. Faut pas oublier, hein, Marc.
Ouais, Memento Mori.
Voilà, exactement.
Mais c'est vrai, non, mais si c'est vraiment ce qui te fait plaisir, fais-le, mais juste garde conscience que tu fais ça aux dépens de ton argent, quoi.
Bah oui.
C'est soit ça, soit t'as plus d'argent.
À quoi ça sert de finir le plus riche du cimetière? Non, mais c'est vrai, c'est une super question.
Ouais, non, ça sert à rien, c'est vrai.
Ça sert pas à rien, c'est juste dans l'absolu. À quoi te sert cet argent si t'en as pas profité dans ta vie, quoi ?
Eh ben oui, et c'est pour ça que plus ça va, plus j'essaie d'en profiter. Mais je
détends un peu ce truc.
Largement, ouais. Ouais. Mais là, tu vois, maintenant, je peux me permettre des trucs où les gens autour de moi sont un peu jaloux parce que eux, ils sont bloqués dans leur taf, machin. Moi, j'ai beaucoup plus de liberté. Je peux partir 3 semaines en voyage et rien demander à personne. Et ça, c'est possible parce que je me suis serré la ceinture et puis j'ai cherché des moyens. Et donc, j'ai 35 ans, j'en ai pas 75, quoi.
Oui, effectivement. Donc, mais je trouve que c'est d'autant plus intéressant d'avoir réussi à faire ça à 35 ans que faut aussi faire attention à faire baisser la pression autour de « Ah putain, il me reste peut-être 40 ans à vivre. »
Ouais. Ouais.
Et avant de éventuellement mourir, tu vois, comment je fais pour faire en sorte de garder cette forme de liberté, quoi.
Ouais.
T'as ça aussi ?
Ouais, complètement. Ouais.
Parce qu'en vrai, si t'avais cette liberté-là à 75 ans, tu te dirais « Bon, j'en ai peut-être plus que pour 5 ans à tirer.
Non, non, moi,
certes, j'ai les genoux qui grincent, mais en vrai, je peux profiter. »
Non, non, mais à la base, mon but, c'était, je voulais devenir rentier de 10 000 euros par mois, plus millionnaire avant 30 ans et tout. Et en fait, ouais, bon, là, tu déchantes quand tu vois à quel point c'est difficile. Mais, ouais, il faut trouver l'équilibre entre cigales et fourmis, c'est tout. Il faut vivre légèrement en dessous de ses moyens. Il faut pas dépenser l'argent qui t'appartient pas. Voilà, il faut pas te mettre dans la merde pour le futur, parce que moi je te dis, je peux t'en parler, dans ma famille, voilà, mes parents, ils ont pris des mauvaises décisions quand ils avaient la vingtaine, la trentaine, et puis après, voilà, tu te retrouves à 40, 50 ans et ta vie, elle est pas rigolote et tu comptes chaque euro. Donc voilà, achète ta voiture qui te fait plaisir si tu veux, mais garde ça en tête quand même, garde ça à l'esprit, ne fais pas n'importe quoi. C'est comme bois un peu d'alcool si tu veux, bien sûr, parce que ça fait plaisir, mais te bourre pas la gueule non plus, c'est un peu ça.
Faut pas être dans l'excès. Je vais pas dire bourrez-vous la gueule, mais en vrai, si t'as envie de te bourrer la gueule.
Avec modération, c'est ça qu'il faut dire.
Ouais. Non, mais j'ai toujours un peu ce truc aussi où, tu vois, si tu finis par. Si tu prends pas le volant après, enfin, tu vois, si tu mets pas les autres en danger,
ouais,
bon.
Ouais, ouais.
C'est toujours. J'essaie de. Mais tu vois, c'est marrant parce que j'ai l'impression que t'as accepté. Tu sais, c'est un truc. C'est un truc dont parle Christian Junot dans le premier épisode d'ailleurs, où on parle des polarités, où il dit en fait, pour accepter le radin en soi, faut aussi, pour accepter le généreux en soi, faut aussi accepter le radin, tu vois. Est-ce que t'as la sensation qu'il y a des moments où t'es généreux?
Oui.
Par rapport à cette radinerie qui, non seulement te caractérise, mais en plus que tu t'es collé sur le front avec ton blog.
Oui, non, oui. C'est aussi rigolo, quoi.
Mais tu dis que c'est une insulte, c'est fort.
Ouais, mais après, moi j'aime bien parce que ça
on
ça
a
marque.
Tous un radin en soi, je trouve ça hyper intéressant d'aller regarder le radin en soi, quoi.
Ouais.
Il y a des moments où je suis radin, je le vois très bien, je me dis juste, non, là en fait j'ai pas envie de dépenser de l'argent pour ça.
Ouais.
Et il y a d'autres moments où je me sens hyper généreux, c'est cool, faut être capable de regarder les deux. Il y a des moments où toi, tu te vois généreux comme ça ?
Oui, oui, oui. Surtout pour tout ce qui est en nature, je suis assez généreux.
Dès que ça... dès que ça nécessite pas de dépenser de l'argent, c'est ça, voilà, de le donner.
Ouais, oui, oui. Putain, il est tellement galvaudé ce mot. Non, mais en fait, bon, bref, s'il s'agit de faire,
De donner du temps, par exemple, c'est ça.
Oui,
quoi,
donner du temps, ou alors héberger des gens chez moi. Il y a beaucoup de gens qui veulent pas faire ça parce que ça les dérange, machin. Mais non, moi ça me dérange pas, au contraire ça me fait plaisir. Puis bon, après oui, pour ce qui est de payer des trucs, évidemment, ben quand j'étais trop précaire, je le faisais pas. Est-ce que c'est être radin aussi de pas payer un truc alors que t'as vraiment pas l'argent? Bon, il y a des gens qui payent des trucs alors qu'ils ont vraiment pas les moyens, et je trouve que c'est pas bien, c'est juste inconscient de faire ça.
Bah, c'est intéressant de comprendre pourquoi ils font ça, surtout.
Ouais, ouais.
C'est que
pour le paraître aussi.
Ouais, ou il y a des gens qui sont tellement incapables de recevoir qu'ils ne savent faire que donner.
Ah oui, ouais, ouais.
Et en fait, ces gens-là, souvent, ils ont aussi ce truc où leur seule façon à eux de dire merci, c'est de donner.
Ouais.
Et plutôt que de juste dire merci.
Ce qui est
plus dur pour eux. Mais non, c'est effectivement, toi, de ton point de vue de mec qui calcule tout, tu vois, c'est inconscient. Moi, je trouve ça intéressant d'aller plutôt regarder le pourquoi du comment, quoi, tu vois. Parce que quand tu dis c'est inconscient, c'est un peu jugeant. J'essaie de pas juger les gens, surtout dans ce podcast. Je te sentais
non,
songeur là.
Ouais, ouais.
Tu songeais à quoi? T'as un truc que tu veux partager?
Non, rien de spécial. J'essaie de réfléchir à... Non, je sais pas trop.
J'ai l'impression que je t'avais un peu perdu là.
Ouais, j'avoue.
Bah, merci beaucoup, Marc, en tout cas.
Merci à toi. En tout cas,
j'ai l'impression que je t'ai perdu là, mais bon.
C'est l'heure de la sieste.
Merci. En tout cas, c'était très chouette. Je mettrai le lien de ton blog dans les notes de cet épisode. Un grand merci à toi.
Merci Fabrice.
Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.
Hey marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.